France Info.
Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à la radio ou sur le canal 27 de la TNT. Et vous vous êtes souvent peut-être demandé pourquoi Les Informés étaient la meilleure émission de débat du PAF. Eh bien parce que nous avons les meilleurs débatteurs autour de cette table dans ce studio. Ayette Hamidi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire nationale des Républicains, élue du Blanc-Mesnil. Vous êtes également présidente d'un think tank qui s'appelle France Fière. À côté de vous, Brigitte Boucher, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Journaliste à LCP, présentatrice de Politique Matin. Jeannick Halimi, bonsoir.
Bonsoir
à vous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Et enfin Mathieu Dallahousse, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Chef du service investigation de l'Obs. Alors, ce soir avec vous, on va parler de Benoît Hamon, on va parler de la place des femmes en politique, mais bien entendu, on va commencer par l'affaire Fillon, puisqu'il n'y a que ça dans l'actualité, cette affaire Pénélope Fillon. Alors, dernier rebondissement en date, c'était ce matin, l'annonce de la diffusion ce soir par France 2 d'un extrait d'une interview de l'épouse de François Fillon, interview qui date de 2007, à des journalistes anglais du Sunday Telegraph, où Pénélope Fillon déclare « Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari, je ne me suis jamais occupée de sa communication ». Alors cet extrait est pour le moment gardé jalousement par France 2, jusqu'à sa diffusion dans Envoyé spécial, mais écoutez le journaliste qui a retrouvé cette interview, il s'appelle Tristan Valex.
C'est vraiment une interview de femme au foyer. Pénélope Fillon se décrit comme une femme, oui, qui s'ennuie un peu, qui sait pas vraiment quoi faire et qui aimerait bien se remettre au travail. Elle sépare bien, elle explique bien qu'il y a son mari d'un côté qui s'occupe de sa carrière politique et que elle, de l'autre côté, elle a sa vie à elle bien séparée.
Alors, Jeannick Halimi, est-ce que cette interview, à votre avis, change quelque chose ?
Ah ben, en tout cas, elle aggrave. Hein. Elle aggrave le cas, elle aggrave le dossier, elle alourdit les charges, elle continue à ternir l'image du candidat Fillon. Entre parenthèses, c'est aussi une illustration, quand on aura la tête un peu plus au froid, si je puis dire, des femmes dans la politique. Je pense que peut-être qu'on pourra écrire des pages et des pages sur Pénélope Fillon en tant qu'épouse d'homme politique qui, semble-t-il, peut-être, enfin, a été peut-être instrumentalisée par son mari de député, de sénateur, par son mari de ministre, par son mari de premier ministre. Bah, écoutez, il se dit qu'elle n'était peut-être même pas au courant du travail qu'elle était censée faire. Enfin, écoutez, je fermerai en tout cas cette parenthèse, c'était juste pour faire un lien avec le dernier débat
qui
sera le vôtre. Toujours est-il que la messe n'est jamais dite hein, aux politiques, donc il faut jamais laisser tomber le rideau avant que la pièce ne soit terminée. En tout cas, on voit déjà la contre-attaque, si je puis dire, du clan entre guillemets, hein, enfin des soutiens de Monsieur Fillon. Les propos qu'on va entendre ce soir seraient sortis de leur contexte. En tout cas, je pense que ça ne va pas alléger les charges potentielles. Hein. Enfin, on est encore au stade des enquêtes préliminaires qui pèsent sur les épaules de François Fillon.
Ayette Hamidi, c'est un élément à charge de plus.
Vous savez, là, je vais mettre ma casquette d'avocate. Il faut toujours faire attention aux phrases qui sont sorties de leur contexte. En plus, effectivement,
le journaliste a certifié que c'était pas sorti de son contexte.
Il l'a certifié, mais voilà, il faut que l'enquête se poursuive. Effectivement, moi, je pense aussi à Pénélope en tant que femme, parce que je sais que elle aujourd'hui vit quelque chose d'extrêmement douloureux. Je pense aussi à tous ces Français qui se sont mobilisés pour la primaire et qui se sentent un peu volés, parce que aujourd'hui, depuis deux semaines maintenant, on ne parle plus que de cette affaire.
Mais t'allais voler par qui ? Voler par François Fillon ou volé par les médias
En tout cas, cette affaire et cette polémique, parce que on ne parle plus du programme politique, on est à 80 jours de l'échéance la plus importante de notre pays, qui va déterminer l'avenir d'un certain nombre de choses et surtout des Français. Et aujourd'hui, on se retrouve... j'ai aussi une pensée pour les militants qui sont tous les jours sur le terrain, pour qui c'est difficile.
Mais à qui la faute ?
Qui se questionne. Mais ça, là, encore une fois, vous l'avez rappelé, il y a une présomption d'innocence. Pour l'instant, l'enquête est en cours. François Fillon n'est pas mis en examen. Il se défend. Elle a répondu aux enquêteurs. Beaucoup de gens ont été là encore auditionnés. Des preuves ont été présentées. Je ne peux pas me permettre, moi, de faire le jugement. Et on verra ce qu'il en est. Mais ce qui est certain, c'est que François Fillon a recueilli une majorité de voix des Français qui s'étaient prononcées lors de cette primaire qui était magnifiquement organisée, qui était vraiment une primaire citoyenne qui a galvanisé notre camp. Et aujourd'hui, on se retrouve à devoir faire ce jeu polémique et qui ne grandit pas, en fait, le débat démocratique, parce que les Français Français attendent qu'on puisse leur faire des propositions qui vont changer leur quotidien. Alors, et c'est quand même ce qui est le plus important.
Brigitte Boucher, un élément de charge supplémentaire ?
Oh oui, moi je pense que Élise Lucelle, elle va donner un peu le coup de grâce finalement à François Fillon. C'est vrai qu'il y a un doute aujourd'hui de savoir si vraiment elle était au courant de ce contrat, si elle savait qu'elle était assistante parlementaire, puisque elle n'avait pas de badge, elle n'avait pas de boîte mail. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui penchent en faveur du fait qu'elle ne savait pas, en tout cas. Je pense que c'est vraiment la chienlit aujourd'hui, pour reprendre cette expression, puisqu'il avait dit, François Fillon, que finalement, est-ce que De Gaulle pouvait être mise en examen. Mais au-delà de ça, je pense que finalement, ça change rien, parce que le mal, il est déjà fait. Il est déjà fait dans l'opinion. Aujourd'hui, il y avait un sondage Harris Interactive qui disait qu'il y avait 50% des sympathisants de la droite et du centre qui, finalement, disaient qu'il fallait un candidat changer, de remplacement.
On va y revenir, mais Mathieu Delazou, vous avez entendu ce que dit Brigitte Boucher, un coup de grâce.
Coup de grâce, mais qui était prévisible, puisque ce coup de grâce, en fait, François Fillon semble l'attendre lui-même avec angoisse, puisqu'il retarde à chaque fois l'échéance au moment desquels il pourra dire quelque chose. Il était dans un premier temps convaincu qu'il pourrait clore cette affaire avec le meeting de dimanche. Il savait lors de ce meeting qu'il était convoqué le lendemain pour répondre à la police. Désormais, il demande 15 jours, mais il est dans le pire des scénarios et il est dans quelque chose qui l'enserre avec effectivement ces éléments qui deviennent sur la place publique désormais. Il y a un peu de syndrome Cahuzac hein, aujourd'hui dans cette affaire François Fillon, qui doit être une énorme douleur pour lui. Lui qui se présentait comme le candidat pur de la primaire se voit aujourd'hui confronté à toutes ces déclarations passées. Alors c'est aujourd'hui assez facile avec les tweets. Il se voyait comme le candidat exemplaire. Qui peut dire, outre les autres candidats que j'ai été mis en cause par la justice, on voit bien que ça a été le cas aujourd'hui. Cette interview aura un effet absolument terrifiant. Et les arguments de ses avocats aujourd'hui, qui tentent effectivement de sauver le décor en disant que ça a été sorti de son contexte, et surtout que ce n'était pas une comparaison avec Cherie Blair, la femme de Tony Blair, risquent de faire long feu.
Les informés, on se retrouve dans quelques instants. On est sur France Info. France Info, c'est l'info, et il est 20h10.
François Fillon inflexible ce soir en meeting à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Le candidat de la droite à la présidentielle réaffirme n'avoir rien fait d'illégal dans l'affaire Pénélope Fillon et il préfère y voir des attaques soigneusement préparées à son encontre. L'enquête pour soupçon d'emploi fictif s'est élargie aujourd'hui aux enfants de l'ancien Premier ministre. Les superstars du handball français Nicolas et Lucas Karabatic vont se pourvoir en cassation dans l'affaire des Paris. Il y a un match entaché de soupçons de trucage en 2012. Annonce de l'un de leurs avocats ce soir. Hier, trois jours seulement après le sacre mondial des Bleus, la cour d'appel de Montpellier a alourdi leur peine en les condamnant à 2 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. C'est la première visite de la chancelière allemande en Turquie depuis le coup d'État manqué de juillet. Angela Merkel défend la liberté d'expression à Ankara. Reçue par le président turc Recep Tayyip Erdogan, la chef du gouvernement allemand a rappelé que tout doit être fait pour protéger la séparation des pouvoirs et par-dessus tout la liberté d'opinion et la diversité de la société. 4 départements de l'ouest de la France placés en vigilance orange pour vent violent dès demain matin selon Météo France. Le Morbihan, le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche. 2 de ces départements sont également en alerte vague submersion dès ce soir pour le Morbihan à partir de 6h demain matin pour le Finistère. Sachez que 2 plaisanciers ont disparu ce soir au large de Calais. Leur bateau a été retrouvé à 10 mètres de profondeur.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Voilà, et après l'info présentée par Pierrick Bonneau, on revient à l'affaire Fillon, parce qu'il y a donc cet élément nouveau, cette interview de Pénélope Fillon, où elle déclare à des confrères anglais que jamais, au grand jamais, elle n'a travaillé pour son mari. On en a parlé. Et puis, il y a tout de même aussi, comment dire, cet embarras qui ne cesse d'enfler à droite. Tiens, tenez, écoutez Henri Guénaud, député Les Républicains, et d'abord Alain Houpert, sénateur Les Républicains, sur BFM ce matin.
Il est empêtré dans une affaire qui tire toute notre famille politique vers le bas. Je pense qu'il faut une alternative parce que sur le terrain, les gens sont nourris du doute et même si on lui donne raison, il y aura toujours ce doute.
C'est un naufrage. Sur le plan politique, les dégâts, ils sont considérables.
Qu'est-ce que ça veut dire? François Fillon, il dit « je tiendrai jusqu'au bout, je la ferai cette campagne, non, je serai candidat ».
Quand on dit « je tiens jusqu'au bout », c'est qu'on n'est pas sûr de tenir jusqu'au bout. C'est impossible en réalité. voit bien que la pression psychologique et la pression politique va devenir intenable. Elle est déjà quasiment en tribune.
Henri Guénot, vous dites ce matin, il faut qu'il renonce ?
Je pense que ça serait mieux pour tout le monde, oui.
Alors, Yatta Hamidi, vous êtes secrétaire national des Républicains. Faut-il que François Fillon renonce ?
C'est certain qu'on est dans une situation extrêmement compliquée. Effectivement, le cas aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce que c'est le meilleur candidat pour gagner les présidentielles ? Parce que il serait impensable de ne pas laisser le choix aux Français, enfin en tout cas de leur offrir le choix d'une gauche complètement qui ne sait plus où elle va, enfin divisée et qui ne sait plus où elle va, avec un Front National aussi qui va récupérer tous les fruits de cette polémique.
Et les Français dans les sondages, hein, ça ne vous a pas échappé.
Ça, je dirais. Je dirais qu'il n'est jamais meilleur que quand il est bas dans les sondages. La primaire nous l'ont déjà prouvé.
La dynamique est plutôt baissière, donc elle était plutôt haussière.
Vous savez, on est à 80 jours d'une présidentielle. D'autres, et alors moi je trouve que c'est dramatique parce que je ne me suis pas engagée en politique pour commenter ce genre d'affaires, mais d'autres affaires vont sortir. On a Emmanuel Macron qui s'est fait redresser sur 3 ans parce qu'il n'avait pas déclaré son ISF. On a Marine Le Pen.
Que d'autres affaires vont sortir.
Non, mais je veux dire que Marine Le Pen a été condamnée, elle, pour le coup, plus que mise en examen, elle a été condamnée parce que son collaborateur européen était un emploi fictif. Donc, effectivement, si on se concentre sur François Fillon, c'est pas une situation extrêmement facile. Mais je pense que les Français ont le droit à un vrai débat sur le programme. Il faut qu'on revienne à ce débat-là, et il faut absolument qu'on leur offre une autre alternative. Je sais qu'il y avait déjà une défiance de la part des Français face à leur classe politique. Cette affaire, comme le disaient mes prédécesseurs, ne va pas laisser il y aura des traces qui resteront.
Il y a forcément des traces. Brigitte Boucher, vous êtes d'accord, finalement, Fillon n'a pas encore totalement perdu, ou est-ce que...
Écoutez, ce soir sur LCP, on avait Georges Fenech qui a appelé hier un conseil national extraordinaire pour trouver un candidat.
Député des Républicains du Rhône.
Effectivement, pour trouver un candidat pour remplacer François Fillon. Il dit on doit agir avant ce week-end, après c'est fini, on doit passer le flambeau, il doit passer le flambeau et s'effacer au profit, enfin pour les intérêts du pays. Donc c'est assez clair, on met la pression, c'est vrai que François Fillon il a dit laissez-moi 15 jours, il faut tenir 15 jours, je pense qu'on va pas lui laisser les 15 jours qu'il attend, dès ce week-end c'est vrai que la pression monte. Sébastien Huy qui est un autre député Les Républicains proche de Sarkozy, donc on peut se demander l'influence effectivement de Nicolas Sarkozy derrière tout ça, lui demande un bureau politique dès la semaine prochaine, ça veut dire que voilà, il y a une volonté de remplacer aujourd'hui François Fillon.
Ce qui est certain quand même, et bon c'est le point positif de cette affaire, c'est la célérité de la justice. Moi j'aimerais que la justice soit aussi rapide pour tous les Français quand il faut défendre leurs droits au quotidien. Il faut absolument, par contre, qu'on attende les résultats de l'enquête, parce qu'il serait inadmissible qu'on attaque l'honneur d'un homme et qu'on puisse le pendre sur la place publique, alors qu'on n'a toujours pas les conclusions de cette enquête.
Il est complètement inaudible aujourd'hui.
Ce qui est très intéressant dans les intervenants des Républicains que vous nommiez tout à l'heure, ce sont des gens qui savent comment les affaires se passent. C'est le cas de Georges Fenech, c'est le cas d'autres dont vous avez pu parler. Et je crois que leur inquiétude est le pire révélateur pour François Fillon aujourd'hui. Ces gens qui savent ont compris qu'aujourd'hui la messe était dite et qu'il serait trop dur de remonter la pente, sans doute au niveau politique, et ça il l'explique en détail, et éventuellement sur le fond de l'affaire, puisque la mécanique, quand elle est enclenchée, il y a des choses qu'on ne cache plus. Alors il y a cette interview qui sera très spectaculaire ce soir, mais il y a aussi la réalité du travail parlementaire, il y aura la réalité des dépenses, il y a la confusion, c'était sur le site internet de l'Obs hier, la confusion des fiches d'embauche de Madame Fillon. Et cette mécanique fait que les choses aujourd'hui sont réellement impossibles pour François Fillon et que les choses doivent s'arrêter. Et c'est pour ça que le timing sera rendu de façon courte. Après, je pense qu'il y a juste une incertitude, parce que je veux tordre le cou à ce qui est répandu très souvent par le milieu politique sur la vitesse de la justice, puisque François Fillon communique beaucoup sur le fait qu'il ne se présentera pas s'il est mis en examen. Aujourd'hui, il ne peut pas être mis en examen parce qu'il n'est pas dans cette procédure. En procédure pénale, mais vous le savez mieux que moi, si on compare ça à une piscine dans laquelle on serait plongé, il y a deux couloirs. Il y a l'enquête préliminaire d'un côté, il y a l'information judiciaire de l'autre. L'information judiciaire, c'est avec un juge qui peut mettre en examen. Pour l'instant, François Fillon, il est dans le grand bain de l'enquête préliminaire et il n'y a pas d'information judiciaire. Donc pour l'instant, ce qui pouvait se passer, et c'est ce qu'on pouvait espérer quand on ne connaissait pas les détails du dossier, ce qu'on pouvait espérer de son côté et pour sa probité en général, c'est que le classement sans suite, ça va très vite. Quand il n'y a rien, ça va très vite. Ça pouvait être fait en 2 jours, en 3 jours, ça pouvait aller très vite. Mais là, aujourd'hui, tous les éléments qui arrivent par l'enquête, qui arrive par les médias, et pire encore, pardon pour lui, qui arrive par lui-même, sont des éléments à charge. Et tout ça fait que le parcours dans la piscine devient très difficile.
Le grand bain. Je vous entends bien. La messe est dite. Yannick Halimi, en même temps, ce soir, en meeting, François Fillon s'est monté très offensif. Il était à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Il a parlé de barbouzerie, il a parlé d'une violence inouïe, et il a donné l'apparence de quelqu'un qui tenait bon.
Parce que, alors d'abord, la messe est dite, encore une fois, je ne veux pas me répéter. Évidemment, tout semble en condamner, entre guillemets, politiquement, bien sûr. François Fillon, aujourd'hui, on a oublié de dire d'ailleurs que l'enquête... Lui, c'est adossé sur « si je suis mise en examen, j'arrête ». Lui, hein, personnellement. Je pars sous le contrôle de spécialistes. Même s'il y a une information judiciaire qui s'ouvre, il y a de fort peu de chances pour que d'ici 3 mois, une mise en examen soit proférée par le juge. Bon, ça, c'est une chose. Il est vrai que toute une partie de ses troupes, et pas les pires, se rebellent, frondent contre lui et ne demandent que à ce qu'il s'en aille. Il n'empêche que, comme madame l'a rappelé, il a été élu par 4 millions, voire un peu plus de gens. Donc, qu'est-ce qu'il fait d'électeurs de droite et un peu plus et de sympathisants? Qu'est-ce qu'il fait? Il peut s'appuyer, encore une fois, j'essaie de sauver ce qu'il peut en rester. Encore une fois, c'est très dur. Il n'y aura probablement pas de mise en examen. François Fillon va s'appuyer quand même. Il a quelques ténors ce matin qui ont signé une tribune dans le Figaro, qui au moins en apparence défendent une sorte d'unité de façade autour de lui. Bon. Troisièmement, il va s'appuyer sur les meetings. Encore une fois, c'est vrai que ça renacle, c'est vrai que ça grogne, c'est vrai que ça s'inquiète dans les circonscriptions quand les députés, les sénateurs, surtout les députés LR républicains sont retournés là ce week-end. C'est pas un secret que de dire que les gens au moins se posaient des questions, voire étaient très inquiets, très méfiants et très défiants. Il n'empêche que François Fillon, ces meetings sont une partie essentielle dans sa stratégie de remonter cette pente. Il va s'appuyer sur ces gens-là, sur ces électeurs potentiels. Et dernier élément, je pense que ce qui fait partie de sa stratégie, c'est que dans la tourmente, il peut se montrer fort, il doit se montrer fort, il doit se montrer droit dans ses bottes, en espérant, comme tous ses amis, que le vent va passer, qu'on passera à autre chose peut-être dans une semaine ou dans un mois, et qu'il sera,
et on va continuer
il se sera à... montré... digne et imperturbable.
À parler de cette affaire.
Ce qui est bien Fillon, pour un président de la République.
Il est 20h20 à l'info. C'est avec Pierrick Bonneau.
Un jeune de 17 ans mis en examen pour assassinat à Paris. Il est soupçonné d'avoir poignardé un lycéen du même âge lundi devant un établissement du 20e arrondissement de la capitale. Le suspect va être présenté à un juge des libertés de la détention qui statuera sur sa détention provisoire. L'avocat de Pénélope Fillon déplore d'ores et déjà des phrases sorties de leur contexte. Dans son émission envoyée spéciale, France 2 diffuse ce soir une interview de l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle qui date de 2007. Elle y affirme très clairement n'avoir jamais été l'assistante de son mari. Voilà qui va mettre à mal la défense de François Fillon, selon qui son épouse a bien exercé les activités d'attaché parlementaire. Mais le candidat résiste, il reprend sa campagne ce soir. Il était en meeting dans les Ardennes, à Charleville-Mézières. Deux plaisanciers portés disparus depuis le début de l'après-midi au large de Calais. L'épave de leur bateau a été retrouvée à 1 mille de la côte, à 10 mètres de profondeur. Les secours ont dû interrompre les recherches en raison de la météo. Les opérations reprendront lorsque les conditions climatiques le permettront. Notez que 4 départements sont en alerte au vent violent ce soir. Le Morbihan, le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche. Le choc Marseille-Monaco en affiche des 8e de finale de la Coupe de France de football. Le tirage au sort vient d'avoir lieu. Le PSG, double tenant du titre, ira affronter Niort, club de Ligue 2. Bordeaux recevra Lorient.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Bon, on va vous résumer la situation. Si vous êtes plongé dans un coma, vous sortez d'un coma depuis 8 jours, François Fillon est empêtré dans une affaire bien embarrassante, suspecté d'avoir rémunéré son épouse avec de l'argent public pour un emploi fictif. Pour le moment, François Fillon est droit dans ses bottes, on en a parlé il y a un instant, mais à droite, ils sont de plus en plus nombreux à tout de même chercher une sorte de plan B. Certains envoient déjà des signaux à Alain Juppé. Écoutez par exemple le député Les Républicains Philippe Gosselin et la réponse du maire de Bordeaux.
Moi, je vous parle d'un recours. On a besoin de quelqu'un au-dessus de la mêlée. Et je pense que Alain Juppé pourrait être le recours.
Aujourd'hui, François Fillon est candidat, et donc pour moi, la question ne se pose pas. Pour ce qui me concerne, en toute hypothèse, je ne serai pas le plan B.
Brigitte Boucher, Alain Juppé, c'est le plan B ou c'est rien du tout?
Alors, il dit qu'il ne sera pas le plan B, il dit qu'il ne sera jamais le plan B. Je pense qu'effectivement, si tout le monde vient le supplier à genoux de venir, peut-être qu'il pourrait éventuellement changer d'avis. Si on regarde un sondage Harris Interactive autour d'Alain Juppé, on voit que la droite et le centre prévoient que Alain Juppé pourrait être le meilleur candidat, en tout cas à 42%, devant Nicolas Sarkozy ou François Baroin. Et pour les Républicains, c'est aussi Alain Juppé qui arrive en tête, devant Nicolas Sarkozy ou François Baroin. Cela dit, c'est 42% et 36%. Donc c'est pas vraiment un plébiscite aujourd'hui pour Alain Juppé, je crois pas qu'on... Et puis il a le visage du perdant en fait, Alain Juppé, il a quand même perdu la primaire, donc aujourd'hui c'est pas vraiment... Enfin, on va pas chercher la victoire avec un perdant. Donc moi je pense que c'est pas forcément la meilleure solution. Ensuite il y a beaucoup de noms qui circulent, il y a Gérard Larcher...
Yannick Halimi, le visage de perdant d'Alain Juppé, non
il ça, vous êtes, enfin, pourquoi pas, si vous le pensez, c'est qu'il y a une part de vérité, hein, de penser. Bon, peut-être le perdant, c'est vrai qu'il est arrivé très très en retard derrière à la primaire, derrière François Fillon.
C'était François Fillon.
Maintenant, il a...
On l'a encore pas complètement oublié,
Non, certainement pas. Certainement pas. Et je pense qu'il va peut-être même être inscrit dans nos livres d'histoire une fois que les journaux seront passés dessus. Non, il a quand même, on a beau dire, il a eu aussi ses démêlés judiciaires, il les a payés. Il a quand même
pour
une
un problème d'emploi fictif.
Oui, voilà. Bon, il a une, absolument. Il a une carrure d'homme d'État. Enfin, bon, il a son âge, mais qui aujourd'hui peut être un atout d'expérience. Il peut apparaître par son positionnement sur le spectre de la droite.
Vous y croyez ou vous y croyez pas ?
Donc, moi, je n'ai pas à y croire. J'écoute ceux qui sont intéressés par tout cela, c'est-à-dire les représentants du Parti Républicain et lui-même. Pour le moment, j'ai l'impression que le plan B ne fait pas l'unanimité. C'est tout ce que je peux dire. Ce qui est, pour terminer, ce qui est peut-être un atout pour François Fillon. Ouais.
Mathieu Delahousse, Juppé peut être le sauveur de la droite ?
Alors ça, ce sera aux Républicains de le décider. Il était loin derrière, effectivement. Ce qui est très intéressant, c'est sur Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est sorti de la primaire quand même dans un moment assez extraordinaire de la vie politique française.
On n'est jamais mort en politique.
Avec un certain nombre de casseroles judiciaires, à aucun moment, quasiment, dans la primaire de droite, cet aspect de la probité de Nicolas Sarkozy apparaît. Alain Juppé n'en parle pas au débat, bien évidemment. François Fillon a cette fameuse phrase sur qui imagine le général de Gaulle mis en examen.
Phrase aujourd'hui intéressante. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre, Mathieu ? Allez-y, je vous en prie.
Ne lui posez pas la question, on dirait ou pas.
Si le débat doit se dérouler aujourd'hui sur la probité, il va y avoir une remise à plat qui va être totalement inédite au sein d'une formation politique pour savoir est-ce qu'effectivement une affaire judiciaire est un tel handicap pour aller à l'élection présidentielle et effectivement face aux électeurs, est-ce qu'il faut face au péril Front National, hein, puisque c'est quand même ça, choisir d'y aller avec des casseroles pareilles.
Oui, je sais pas, la question se pose, mais quand vous dites que pendant la primaire il n'y a pas eu du tout d'allusion au passé ou aux casseroles judiciaires, c'est vrai qu'avant la primaire ça n'a pas été le cas, mais avant, souvenez-vous du fameux déjeuner qu'aurait eu François Fillon avec le secrétaire général de l'Élysée pour lui demander d'accélérer un petit peu sur l'enquête Big Malion. Bon. C'était juste avant la primaire, mais c'était... ça a peut-être
Vous n'avez pas d'avis en tant que journaliste. On a une représentante des Républicains, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, un autre, c'est quoi le plan B ?
Ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument respecter la ligne qui a été définie par nos sympathisants lors de la primaire. Et force est de constater qu'Alain Juppé n'avait pas recueilli la majorité et n'avait pas défini cette ligne. Donc c'est un schéma vraiment problématique.
Il est deuxième si Fillon est éliminé.
Il est déjà, mais peut-être que cette ligne peut être représentée par d'autres personnes. Alors moi, je m'interdis aujourd'hui, vous m'anticipez.
On est entre nous, allez-y.
Oui, c'est cela. Je m'interdis aujourd'hui de pouvoir penser autre chose, parce que je suis persuadée que François Fillon reste le meilleur candidat pour battre demain l'extrême droite et la gauche divisée.
Et vous ne pouvez pas dire
autre
chose.
Et je pense que son programme... Non, c'est vraiment sincère. Je pense que son programme est le meilleur pour redresser la France. Et j'aimerais vraiment qu'on recommence à discuter de ce programme, quand bien même on ne soit pas d'accord avec les décisions, ou en tout cas les propositions, mais c'est extrêmement important parce que l'enjeu est fondamental. Et malheureusement, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, ça fait vraiment le jeu du Front National. Souvent, ces affaires d'emploi fictif sont apparues dans la vie politique française et je m'en désole. Moi, je représente une nouvelle génération d'élus qui, justement, ne veut pas être dépositaire de ce genre d'affaires, mais il faut absolument peut-être utiliser cette affaire pour éclaircir un certain nombre de points de gestion des fonds publics, pourquoi pas réformer le statut de l'élu.
On va essayer déjà de sortir de cette affaire. Hein. Et puis nous, on va faire une petite pause parce qu'il est 20h28 sur France Info. Vous restez dans ce studio baigné de lumière. On se retrouve juste après la météo et le journal.
Cette année, l'épidémie de grippe a démarré plus tôt que d'habitude. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des précautions simples peuvent être adoptées. En cas de fièvre supérieure à 38 degrés, courbature ou grande fatigue, restez si possible chez vous et évitez les contacts avec les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou malades, et les femmes enceintes. Demandez conseil à votre pharmacien ou appelez votre médecin traitant si nécessaire. Contactez le 15 en cas d'urgence uniquement. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
France Info Météo avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performante et design pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Élodie Calac.
Attention au vent et aux vagues, c'est agité ce soir, de fortes vagues près de l'océan, surtout sur le Morbihan et le Finistère. Une nouvelle perturbation va gagner la façade ouest, la Bretagne, le Cotentin demain matin, avec de la pluie, du vent de sud jusqu'à 100 km/h sur les côtes. Ce vent se renforcera rapidement, on atteindra 100 à 110 km/h dans les terres du nord-ouest, 130 sur les côtes. On retrouvera nos pluies de la Manche vers le bassin parisien, le massif central et les Pyrénées l'après-midi, des averses orageuses près de l'océan. Plus à l'est, ce sera bien nuageux le matin, surtout de l'Alsace aux Alpes, avec un peu de pluie, un peu de neige au-dessus de 1200 mètres. L'après-midi, on retrouvera des éclaircies plutôt belles sur le nord-est. Il fera encore doux, 9 à 12 degrés, 12 à 16 du sud-ouest à la Méditerranée. Samedi, une tempête plus forte circulera de la Vendée et de l'Aquitaine vers le nord-est. On pourrait atteindre les 150 km/h sur les côtes de la Vendée et des Charentes, jusqu'à 120 dans les terres des Charentes vers le massif central.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
(20h30) vous écoutez France Info, vous avez bien raison, l'info c'est avec Paul Ferrier.
Et vous venez de l'entendre, les côtes du Nord-Ouest dans la tempête, Météo France a placé le Finistère et le Morbihan en vigilance orange, vague et submersion. Jusqu'à demain soir, le Finistère, le Morbihan, les côtes d'Armor mais aussi la Manche sont placés à partir de demain matin en vigilance orange pour le vent, une tempête à laquelle se prépare le gestionnaire du réseau d'électricité. Écoutez le directeur d'Enedis pour la région Bretagne, Bernard Laurens.
Demain matin, c'est 500 agents d'Enedis qui seront prêts à intervenir sur le réseau breton. Et à ces 500 agents, on peut compter une 130 salariés d'entreprises prestataires. On aura fait cette nuit le maximum de manœuvres sur le réseau. On a préparé du matériel, et notamment des groupes électrogènes et un hélicoptère, pour accélérer les visites de réseau et faire le diagnostic. Et c'est une fois qu'on a cette vision-là, qu'on est capable d'estimer la durée des travaux et donc le temps qu'il nous faudra pour revenir à une situation normale.
Le directeur d'Enedis pour la région Bretagne. Aidez-moi à résister, l'appel de François Fillon en colère froide. C'est lui qui le dit face aux violences qu'il juge inouïes. Le candidat Les Républicains a ouvert son discours au meeting de Charleville-Mézières tout à l'heure en se défendant contre ce qu'il a dénoncé comme des agitations malsaines entretenues par le microcosme. Il évoque bien sûr les soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur son épouse Pénélope Fillon. Dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte, deux collaboratrices, la secrétaire particulière de François Fillon et son attaché parlementaire actuel, ont été entendues par les enquêteurs aujourd'hui. Elles viennent de sortir des bureaux des enquêteurs. L'enquête qui a été élargie à deux des enfants du couple rémunérés tous les deux par François Fillon au Sénat. 2 millions d'euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Serge Dassault condamné aujourd'hui pour avoir caché au fisc français pendant 15 ans des dizaines de millions d'euros sur des comptes à l'étranger. Selon le tribunal, c'est son âge qui lui a fait éviter la prison. Le milliardaire de 91 ans, doyen du Sénat et patron du journal Le Figaro, a immédiatement annoncé qu'il allait faire appel de cette condamnation, un recours qui devrait lui permettre de garder son siège au Sénat jusqu'à la fin de son mandat. Deux militaires de l'opération Sentinelle se sont fait voler leur arme en Isère alors qu'ils mangeaient dans un fast-food cet après-midi. Deux fusils d'assaut laissés dans leur voiture sur le parking. La voiture qui transportait les voleurs a été retrouvée non loin de là. De moyens importants sont mis en place pour retrouver les voleurs. L'actualité à l'étranger avec une colonie emblématique en Cisjordanie. Jordanie, évacuée de ses habitants aujourd'hui. Des centaines de policiers israéliens ont extrait de force des colons, 200 à 300 personnes qui s'étaient retranchées dans la synagogue de la colonie d'Amona. Colonie qui devrait être détruite, c'est l'épilogue d'une situation qui a poussé le gouvernement israélien à promettre la création de nouvelles implantations pour reloger les colons, la première depuis 25 ans en Cisjordanie. Et puis l'acteur américain George Clooney recevra le César d'honneur au cours de la 42e édition des Césars. Les informer la suite, Olivier Delagarde.
20h, 21h, les informer, Olivier Delagarde.
Avec quatre informés d'élite, Jannick Halimi du Parisien, Brigitte Boucher de LCP, Mathieu Delahousse du Nouvel Obs et Ayette Hamidi des Républicains. Et vous allez pouvoir respirer, Ayette Hamidi, parce qu'il n'y a pas que Fillon dans l'actualité. On en a beaucoup parlé au cours de la première demi-heure de cette émission, mais il s'en passe aussi en face, dans le camp d'en face. Benoît Hamon était aujourd'hui à l'Élysée. Le vainqueur de la primaire à gauche était reçu par le vainqueur de la primaire 2011. Il a fait une courte déclaration en sortant de l'Élysée. Écoutez-le.
Il n'y a pas de passage de témoin aujourd'hui. Il y a une élection présidentielle et un président qui préside jusqu'à l'élection présidentielle. Et ce que sera la passation de pouvoir après l'élection présidentielle, il n'y a pas de passage de témoin. Il y a simplement la volonté de ma part d'échanger sur ce que seront les axes de ma campagne. Et elles seront dans la continuité de ce que j'ai défendu.
Alors, pas de passage de témoin, nous dit Benoît Hamon. Mathieu Delahousse, c'était important pour Benoît Hamon d'être reçu par François Hollande ?
Je crois que c'est un moment très très important pour la gauche, parce que ça permet de mettre
moment
en avant...
Moment très important pour la gauche.
Qui sont les forces en présence aujourd'hui ? Et aujourd'hui, il y a quand même cette primaire socialiste. On voit que François Hollande avait pris quelques distances en n'y assistant pas, en allant au théâtre, etc. Et on le disait tout à l'heure, tout serait plus simple s'il n'y avait pas Macron. C'est vrai qu'on en parlait par rapport à Fillon. Si Fillon était la seule alternative face à Marine Le Pen, il irait malgré Pénélope. On se disait qu'on préfère éventuellement Pénélope à Marine. Mais en tout cas, pour la situation de la gauche, pour le fait que Hamon puisse être présidentiable de façon réelle, crédible et s'inscrire dans les esprits, c'était un moment très important. Et ce qu'il dit est sur cet aspect-là, c'est-à-dire de se porter vers l'avenir. On n'était pas là pour solder les comptes, reparler des frondeurs, reparler de tous ces dossiers qui ont fait qu'il y a eu ces épisodes extrêmement difficiles au sein de l'équipe de François Hollande. Il était là, je pense, pour non pas préparer la passation de pouvoir, comme il le dit un peu maladroitement, mais préparer sa vraie figure de présidentiable.
Ayette Hamidi, un grand moment pour la gauche ?
Alors, c'est certain que attendre, pour un président socialiste, attendre 10 jours pour recevoir le vainqueur de la primaire, c'est franchement pas une déclaration d'amour. En tout cas, ils n'étaient pas véritablement...
Alors, il n'est pas allé chercher Benoît Hamon sur le perron, il l'a pas raccompagné, alors voilà, on scrute un peu tout ça.
Ils n'étaient pas vraiment... Enfin, on a bien senti que ça l'envie les dévorait pas de se revoir. On imagine bien que la discussion n'a pas vraiment été fructueuse ou constructive, parce que je rappelle quand même que Benoît Hamon s'est quasiment opposé à chaque réforme du président socialiste. Donc, effectivement, il rappelle bien qu'il n'y a pas eu de passation de pouvoir parce qu'il ne veut pas être dépositaire du bilan. Sauf que s'il conserve l'étiquette socialiste, et tout le monde autour de cette table, encore une fois, il y a 15 jours, imaginait bien que Benoît Hamon était là pour signer l'acte de décès du Parti socialiste. Pourtant, cette affaire malheureuse avec François Fillon relance un petit peu toutes les possibilités au sein de la gauche. Et donc François Hollande est un petit peu, j'imagine, est un petit peu entre deux choix. Celui de Macron qui est un peu plus naturel parce que tous les anciens soutiens de François Hollande sont venus soutenir Macron. Et en même temps, il ne peut pas véritablement, à moins d'un baiser de la mort avec Benoît Hamon pour vraiment l'obliger à signer l'acte de décès du Parti Socialiste, on imagine bien que lui-même dans cette situation ne l'avait pas anticipé en tous les cas il y a 15 jours.
Alors Brigitte Boucher, je vous vois faire une moue extrêmement dubitative en écoutant Ayette Hamidi.
Non, mais il faut voir comment Benoît Hamon est arrivé à l'Élysée. Il sautillait sur les marches, il avait le sourire jusque-là. C'était vraiment la victoire des frondeurs sur le quinquennat. Après, il est allé voir François Hollande. François Hollande, il faut se souvenir que dans le livre de Dave et l'Homme, un président ne devrait pas dire ça, il a dit « C'est quoi, Benoît Hamon ? Pas grand-chose. » Donc, effectivement, tous les
pas. Mais je pense que quand même Benoît Hamon, il est allé prendre quand même un petit cours de synthèse hollandaise, parce que il va devoir aujourd'hui joindre les deux bouts. Il va falloir rassembler son camp, et je pense qu'il peut y arriver pas si mal finalement. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que tous les hollando-valsistes vont partir pour aller vers Macron. Il y en a qui ont parlé de droit de retrait, mais finalement un droit de retrait, ça veut dire qu'il reste quand même au sein du Parti socialiste pour le moment. Et puis la synthèse, il va falloir la faire avec Yannick Jadot, avec Jean-Luc Mélenchon. Ça va être plus compliqué.
Mais il y a une dynamique en ce moment quand même.
Oui.
Comme vous le rappeliez, on parlait de la mort du Parti socialiste il y a encore deux ou trois semaines. Maintenant, on en parle moins. Ce qui ne veut pas dire quand même qu'il n'est pas en train d'agoniser malgré les signes de revivifiance, si je puis dire. Je ne suis pas pardon de ce néologisme qui sont réels aujourd'hui, notamment parce que Benoît Hamon est arrivé vraiment en tête de la primaire. Du Parti Socialiste, de la gauche. Ça, c'est vraiment un moteur et une dynamique réelle.
Oui, mais on voit que ça ne suffit pas d'arriver en tête. François Fillon, elle a patiné derrière.
Ça ne suffit pas, mais tout de même, il faut quand même expliquer le fait que M. Hamon soit aussi content et souriant. Et quand même, cette symbolique, je dis bien cette symbolique, elle n'est que symbolique d'un Benoît Hamon sur les marches de l'Élysée. C'est une sorte d'image subliminale, quand même, qui n'est pas inintéressante. Deuxième moteur de cette dynamique Hamon, c'est effectivement l'affaire Fillon et ce qui se passe. Mais enfin, ça, c'est de
au sein c'est des pain républicains. C'est un béni pour lui.
Oui, enfin, c'est du pain chaud. Tout de même, pour compléter ce que vous disiez, Brigitte, pardon, excusez-moi. Attention, derrière les apparences, il y a la réalité. Il faut passer quand même de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que les leçons de synthèse, peut-être que pourrait faire. D'abord, je ne pense pas que François Hollande ait de leçons à donner, parce qu'on voit ce que ça a donné, sa synthèse molle, qui a fini quand même par un début de décomposition. Okay. En tout cas, un quinquennat qui se
termine. Je vois Mathieu Delahousse qui sursaute.
Non, mais je termine lui, par un quinquennat qui se termine mal pour lui. Je parle de François Hollande, et quand même une gauche. Même si elle a donné quand même un vainqueur à la primaire, n'a pas encore donné un vainqueur à l'élection présidentielle. Parce que cette synthèse dont parlait Brigitte Boucher, elle est extrêmement compliquée à faire. Valls, ça va pas être évident. Et sur la gauche, il y a quand même un Mélenchon dont la cote 7 certes diminue, mais il n'est pas prêt du tout de se désister avant le premier tour. Et déjà, premièrement, mathématiquement et idéologiquement, Monsieur Hamon va devoir choisir. Je ne sais pas s'il va pouvoir faire la synthèse.
Vous savez ce qu'on va faire, les enfants.
Choisisse sa tendance.
On va reparler de Hamon dans deux petites minutes. Mais d'abord, à 20h40, l'info, c'est avec Pierrick Bonneau.
L'État a reconnu en partie responsable du suicide par pendaison de Marion Fraisse, une collégienne de 13 ans qui s'était donnée la mort en 2013. L'adolescente était victime de harcèlement dans son collège de l'Essonne. Selon le tribunal administratif de Versailles, l'éducation nationale n'aurait pas détecté ni empêché le harcèlement de la jeune fille par certains de ses camarades de classe. François Fillon repart en campagne. Le candidat de la droite à la présidentielle était ce soir en meeting à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Et il est resté inflexible face aux soupçons d'emploi fictif qui vise sa famille. François Fillon réaffirme n'avoir rien fait d'illégal dans l'affaire Pénélope Fillon et préfère y voir des attaques soigneusement préparées à son encontre. L'enquête s'est élargie aujourd'hui aux enfants de l'ancien Premier ministre. EDF confirme qu'un plan de suppression de postes est bien sur les rails au sein de l'entreprise. Les effectifs vont baisser d'environ 6% entre 2017 et 2019. Les syndicats donnent le chiffre d'au moins 5900 postes supprimés en 4 ans, mais pas de licenciement selon la direction. Le représentant de la CGT à EDF, Philippe Page-Lemerour, était l'invité de France Info tout à l'heure. Selon lui, les éléments du cocktail sont réunis pour aller vers un conflit social. 4 départements de l'ouest de la France placés en vigilance orange pour vent violent dès demain matin selon Météo France. Le Morbihan, le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche. 2 de ces départements sont également en alerte vague submersion dès ce soir pour le Morbihan, à partir de 6h demain matin pour le Finistère.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et on revient sur cette visite Benoît Hamon à l'Élysée pour se faire peut-être adouber par François Hollande. Brigitte Boucher, on n'est pas dans la tête du président de la République, Mais quand même, est-ce que François Hollande ne peut pas avoir quelques regrets au moment où il reçoit Benoît Hamon ?
Je suis pas sûre qu'il puisse avoir des regrets, hein, Benoît Hamon, aujourd'hui. Je pense qu'il peut, moi, réussir quelque chose. Yannick Halimi disait que c'était très compliqué de faire la synthèse. Je pense qu'il peut réussir à faire quelque chose parce que les valsistes, en fait, ils vont regarder dans leur circonscription, ils vont voir que tout le monde a voté Benoît Hamon, et s'ils veulent pas se mettre à dos tous les électeurs, ils vont être finalement obligés peut-être de rester au Parti Socialiste. Ensuite, il y a Yannick Jadot, les Verts, il y a beaucoup de choses qui sont compatibles avec le programme de Benoît Hamon, sur l'Europe, sur l'écologie. Ensuite, on ne sait pas s'il aura ses 500 signatures. S'il n'y a pas d'accord législatif, les Verts, ils n'auront pas de groupe, ils vont disparaître. Et puis, avec Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'effectivement, ça va être très compliqué, qu'il n'y aura pas d'accord. Mais il y a les communistes. Et les communistes, là, il peut essayer de les récupérer, oui. Benoît Hamon. Ah,
si les communistes peuvent faire la peau
de... Mais Brigitte, quand vous dites qu'il peut essayer de faire quelque chose, ça veut dire quoi ? Arriver second, deuxième,
ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a jamais connu une élection présidentielle aussi ouverte.
Oui.
Je pense qu'elle est totalement inédite. Il y a déjà eu une renonciation. Il peut y en avoir éventuellement une deuxième. Aujourd'hui, Benoît Hamon, il est dans une dynamique qui est très très forte, portée par la primaire.
Emmanuel Macron ou à Jean-Luc Mélenchon, il faudrait vraiment que ce soit un de ces deux qui renonce pour laisser véritablement
Emmanuel
une place
Macron,
politique.
Il est très haut dans les sondages.
Chaque fois qu'on parle de renoncement, Ayette, à midi, fait sursaute.
Non mais justement, c'est sûr qu'il pourra aussi bénéficier, parce que moi, le phénomène Macron, moi j'y crois pas trop. Je pense que c'est un peu, c'est une image qui parlera à ma génération, mais c'est un peu le tout to be free de la politique. C'est un vrai produit marketing. Et en fait, donc, c'est un beau gosse qui chante bien. Mais
vous avez connu le to be free,
absolument.
Vous avez
allé dedans.
On ne vous félicite pas.
Mais quand on veut prétendre à l'élection suprême et qu'on a été incapable simplement d'être élu local, de côtoyer les Français au quotidien, et qu'on est énarque et qu'on veut rénover la politique alors que, justement, on a été banquier d'affaires, enfin, je pense que ça va se dégonfler. Quand bien même, aujourd'hui, la dynamique est de son côté, on est à 80 jours des présidentielles, et Benoît Hamon pourrait bénéficier de en fait cette bulle vraiment spéculative qui s'effondre parce que il n'est vraiment pas légitime.
C'est beau d'entendre parler aux républicains de la victoire éventuelle de Benoît Hamon.
Non, pas du tout. Pas de la victoire. Pas de la victoire. Tout simplement, je pense que Benoît Hamon est plus légitime pour justement parce qu'il est élu local, parce que effectivement il est jeune, il est au contact au quotidien des Français.
Macron est jeune aussi. Hein,
Macron,
oui,
Macron a beaucoup. Ce sera le vote, Madame.
Oui, Macron est très cohérent. En fait, il a un programme qui est très cohérent avec ce qu'il présente, avec ce qu'il incarne.
Il l'a présenté, ce qui n'est pas le cas de Macron.
Vous n'avez pas parlé tous en même temps, sinon je vais me fâcher.
Vous l'avez quand même tellement, non pas ridiculisé, mais tellement marginalisé et caricaturé. Peut-être d'Emmanuel Macron. Vous avez peut-être raison. Moi, je ne crois pas. Je crois. Après, ça peut très bien se dégonfler. Il peut arriver que troisième ou quatrième. Je ne dis pas. Je n'en sais rien. Mais ce n'est. Je ne pense pas sous prétexte que comme François Fillon, par exemple, il n'a pas fait le parcours électoral et politique normal d'un homme.
Il était parlementaire, François Fillon était.
C'est ce que je dis. Si Emmanuel Macron n'a pas fait le même.
Mathieu Delahousse, qui est le plus sage à cette table.
Ce qui est intéressant sur ce que vous disiez, parce que moi je ne prends pas vos paroles comme un plaidoyer pour Emmanuel Macron, mais comme une réalité politique assez essentielle, qui est effectivement aujourd'hui le jeu est tellement ouvert que désinguer, entre guillemets, Benoît Hamon est un danger terrible par rapport aux enjeux présidentiels qui arrivent. Effectivement, il y a un candidat de la droite aujourd'hui qui est en difficulté majeure. Il y a Emmanuel Macron que vous décrivez comme une bulle, mais en tout cas qui pour l'instant a la faveur des sondages. Et face à ça, il y a le péril Front National qui arrive. Donc effectivement, les petits calculs, les petits jeux, les espoirs que François Hollande ait pu mettre un couteau dans le dos de Benoît Hamon aujourd'hui peuvent exister. Mais il y a aussi cette volonté qu'on peut pas totalement exclure de se dire qu'il y a peut-être une espèce de volonté de l'État, des politiques, et notamment à l'Élysée aujourd'hui, de garder toutes les chances ouvertes pour que la situation ne soit pas totalement catastrophique au mois de mai.
Brigitte Boucher.
C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, on ne sait pas si l'assise dans les sondages, elle est très solide pour l'instant. C'est vrai qu'il est très haut, c'est vrai qu'il monte, il faut le reconnaître. Mais bon, il y a toujours un flou sur le programme. Et puis, c'est un peu le métro à 18h, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a un peu tout le monde. C'est cette expression qu'employait les gaullistes. Mais c'est vrai qu'on trouve Jean Arthuis au centre, on trouve des anciens ministres chiraciens. On trouve aussi
des gens de gauche. Donc, le ni droite ni gauche, on ne sait pas si on s'y retrouve. Et puis, avec quelle majorité, avec tous ces gens
Alors, voilà pour Hamon, voilà pour Macron, voilà pour cette rencontre d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on passe à notre dernier sujet. J'aimerais qu'on parle de la parité en politique. Parce que si les femmes sont majoritaires dans ce studio, mon cher Mathieu, ce n'est pas le cas en politique. Un rapport sur le sujet a d'ailleurs été publié par le Haut Conseil à l'égalité et il montre que si derrière des chiffres qui indiquent apparemment que les choses s'améliorent, en fait, dans la réalité des choses sur le terrain, au niveau local notamment, eh bien, c'est encore les hommes qui ont le pouvoir. Écoutez cet échange entre Nathalie Kosciusko-Morizet et Franz-Olivier Gisbert, c'était juste avant la primaire de droite.
Quand vous êtes une femme en politique, finalement, c'est un système qui est très fermé. C'est un système de cooptation entre hommes. C'est un système qui ne vous accueille pas particulièrement. Moi, ça fait 43 ans que je suis une femme, j'ai l'habitude. Et ça fait finalement quelques années quand même que je fais de la politique. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut être horripilant et injuste, en fait. Cette manière qu'on a, quand vous êtes arrivée quelque part, de vous dire « Ah, mais c'est parce que tu étais une femme ».
Ah oui, la génération des to-be-free, là encore. Ayette, à midi, vous êtes également une politique. Vous adhérez à ce que dit Nathalie Kosciusko-Morizet ?
Je dirais que les choses doivent se faire par étapes, et je crois que c'est le cas. La loi de parité a changé les choses au niveau local. Dès les municipales, on a vu une obligation de mettre un homme, une femme, et ça a permis de faire émerger un certain nombre de profils féminins, dont je suis d'ailleurs. Ensuite, effectivement, il y a les départementales, c'était aussi la parité, les régionales, et ça permet au fur et à mesure, parce qu'il ne s'agit pas de venir imposer par le haut des profils, ça n'aurait pas de sens. Il s'agit de, au fur et à mesure, et c'est trop lent, je vois Yannick qui fait dans la tête, mais c'est trop lent, évidemment, comme évolution, mais c'est quand même positif. Ensuite, on assiste effectivement à une captation des fonctions exécutives au sein des régions.
Les gros portefeuilles, quoi. Voilà,
les gros portefeuilles. Et puis même les régions françaises, il y a trois présidentes. C'est... Mais je pense que ça se fera au fur et à mesure. Il faut continuer, malheureusement.
Un candidat propose la parité réelle, par exemple.
Mais malheureusement, on est obligé de passer par les sanctions. C'est déplorable parce qu'on est quand même dans un pays moderne. On serait en droit de se dire qu'on n'a pas besoin de passer par des sanctions financières. Mais c'est nécessaire. Et là, pour le coup, je parle aussi pour mon parti. Je sais que combien ont été importantes la prise en considération des sanctions financières pour qu'on puisse se présenter aux législatives, pour ma part en Seine-Saint-Denis, mais parce que sinon, on était beaucoup moins entendus. Donc, c'est important de continuer sur cette évolution. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense qu'ensuite, c'est à nous de prouver que les compétences sont là et de faire notre place dans ce système.
Les choses vont dans le bon sens, Mathieu Delahousse ?
Le Haut Comité dit que non, puisqu'il dit que sans contrainte, il n'y a pas de parité.
Exactement. Alors, oui, il y a eu des contraintes, donc les choses vont un peu mieux.
Oui, mais avec... Effectivement, cette différenciation, c'est que les chiffres pour les femmes existent, mais pas les fonctions, finalement. C'est-à-dire que dans les fonctions exécutives, il n'y a personne. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce matin dans Libération cette photo qui date un petit peu, mais qui est totalement extraordinaire. Ça va être au Congrès des maires de France où on voit tous ces hommes ceints de leur écharpe tricolore, pas une femme à l'horizon.
Elle est formidable, cette photo.
Ce qui est un cauchemar.
C'est vrai.
Et effectivement, aujourd'hui, c'est quand même la réalité dans des tas d'univers. Et sans contrainte, il n'y a rien. Moi, j'ai l'exemple de la justice dont on peut parler après, mais qui est intéressant parce que les chiffres ont basculé là-dessus.
Je vais couper la parole à un homme pour la donner à un autre. Il est 20h50 sur France Info et l'info, c'est avec Pierrick Bonneau.
France 2 exhume ce soir dans son émission Envoyé spécial une interview qui risque bien d'embarrasser encore un peu plus le couple Fillon. Un entretien donné en 2007 au journal britannique Sunday Telegraph où Pénélope Fillon explique ne jamais avoir assisté son mari. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit dans ce genre-là, affirme très clairement l'épouse de François Fillon. Un jeune de 17 ans mis en examen pour assassinat à Paris. Il est soupçonné d'avoir poignardé à mort un autre lycéen du même âge lundi devant un établissement du 20e arrondissement de la capitale. Le suspect va être présenté à un juge des libertés qui dira si oui ou non il doit être placé en détention provisoire. Un autre agresseur présumé âgé de 16 ans doit à son tour être présenté à un juge d'instruction. Dans les prochaines heures, il pourrait lui aussi être mis en examen. En Roumanie, le Premier ministre campe sur ses positions malgré les manifestations massives d'hier soir. Le gouvernement social-démocrate maintient un décret assouplissant la législation anticorruption. La soirée d'hier a été ponctuée de manifestations sans précédent depuis la chute du communisme à Bucarest. À Bucarest, le texte qui provoque l'indignation des Roumains pourrait permettre à plusieurs hommes politiques d'échapper à des poursuites pénales, notamment pour emploi fictif. Deux plaisanciers portés disparus depuis le début de l'après-midi au large de Calais. L'épave de leur bateau a été retrouvé à 1 mille de la côte, à 10 mètres de profondeur. Les secours ont dû interrompre les recherches en raison de la météo. Les opérations reprendront lorsque les conditions climatiques le permettront.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et on parle donc de la parité en politique à la suite de ce rapport rendu par le Haut Conseil à l'égalité. Yannick Halimi, pourquoi au final les choses ne vont pas plus vite alors que la loi semble, elle, avancer dans le bon sens?
Oui, la loi, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est surtout les gouvernements de gauche qui ont fait passer toutes les lois, qui ont fait avancer les choses, les contraintes, les pénalités qui augmentent pour faire pression sur les partis politiques. Donc, et malgré tout...
Ils sont plus macho à droite, donc.
Et malgré... je crois que Nathalie Kosciusko-Morizet elle-même l'a dit. Voilà. Donc...
Paillettes à midi ou...
Moi, je l'ai jamais expérimenté, donc je bénéficie de la loi de la parité.
Vous êtes au secrétaire national des Républicains. Vous avez peut-être une petite idée sur la...
Mais je vous confirme que je n'ai jamais expérimenté de misogynie au sein de mon parti.
La droite a toujours préféré payer des sanctions financières que d'avoir la
maman. Oui, je crois qu'il y a une évolution. Là encore, il y a une évolution.
Il y aura 40%.
Et je crois même que c'est François Fillon, alors pardon, mais c'est François Fillon qui, au dernier Conseil national, il y a deux semaines, avait vraiment appuyé sur le fait que les circos devaient respecter cette parité et qu'il y mettait un point d'honneur parce que...
Très bien, il faut respecter la loi, mais en tout cas, elle n'a pas été à l'origine de lois mobilisatrices. Oui. Et puis dans le rapport que vous citiez, où il y avait des classements mondiaux de représentation féminine au sein des assemblées législatives...
62e
contre 42e il y a 10 ou 15 ans, je ne me souviens plus. Donc on a diminué, il y a certains pays qui vont plus vite que nous. Et pour répondre à votre question, pourquoi ça n'avance pas plus vite, je pense qu'il y a plusieurs choses. Un élément culturel, anthropologique, alors pourquoi plus en France, j'en sais rien, mais qui a une sorte de supériorité des hommes vis-à-vis des femmes. Ils estiment que c'est eux qui doivent incarner le pouvoir, l'autorité, l'intelligence, la compétence, j'en passe et des meilleurs. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe sur la scène politique aujourd'hui pour voir quand même les limites de cette démonstration. Il y a d'autres éléments plus institutionnels et plus formels sur lesquels, là, on peut faire avancer encore les choses et qui n'ont pas un rapport direct avec les femmes. Ce sont, en France, je parle des femmes, c'est la possibilité de cumuler les mandats et le fait que les partis et aussi les électeurs, faut reconnaître, électeurs-électrices, le corps électoral, donnent une prime aux sortants. Donc si, et cela, ça empêche les nouveaux venus, aussi bien les femmes que les jeunes d'ailleurs, d'être représentés dans plusieurs, si on jouait sur au moins par exemple le cumul des mandats, enfin évidemment la limitation, c'est tout bête, et d'ailleurs c'est dans les programmes de presque tous les candidats,
ça c'est tout à fait vrai, ça fait avancer les choses. La loi sur le non-cumul va obliger effectivement d'avoir des femmes, parce que comme les sortants sont sans arrêt réinvestis et qu'il y en a qui font 5 mandats, on se retrouve avec 25 ans dans la vue quand on est une femme.
En même temps, quand on interroge les partis politiques, souvent ils disent mais on a toutes les peines du monde à c'est trouver faux. Des femmes qui veulent faire
non,
de la politique.
Non, mais c'est faux, parce qu'il y a un exemple que donne le rapport encore au sein des conseils municipaux. Il y a très peu de maires, M-A-I-R-E-S, effectivement, j'ai les chiffres sous les yeux. En revanche, grâce à la réforme de la parité, il y a 40% de conseillers municipaux qui sont des femmes. Donc ça prouve bien qu'il y a un vivier.
Et puis ce que dit le rapport aussi, c'est qu'il y a cooptation entre les hommes. C'est le rapport du conseil qui le dit. C'est vrai qu'il y a 84% des collectivités locales qui sont présidées par des hommes. Au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, il y a 80% d'hommes. C'est quand même énorme. On n'arrive pas à faire cette parité. Il y a qu'à voir à la primaire, de la gauche comme de la droite, il y avait une femme parce qu'on est allé la chercher, parce que Nathalie Kosciusko-Morizet, elle a fait des pieds et des mains pour pouvoir avoir les parrainages. Mais comme à gauche, Sylvia Pinel qui a finalement décidé d'y participer, sinon il n'y avait aucune femme. C'est quand même pas normal. Alors je veux bien qu'il y ait le syndrome de première de la classe qui fait que les femmes ne se mettent pas forcément en avant, mais il faut encore faire des efforts. Et c'est vrai que c'est la gauche qui, avec la loi de 2013 pour proposer un binôme dans les départements, a fait avancer les choses là-dessus. Il y avait Cécile Duflot qui avait un bon mot. Elle disait quel est le féminin de candidat. C'est suppléante. Et c'est vrai que
c'est la bonne entendeur. Monsieur, est-ce que vous savez à quoi on reconnaît que un débat a été bon? Eh bien, c'est quand on est un petit peu frustré, et vous allez être un peu frustré, parce que vous avez encore des tas de choses à vous dire. Néanmoins, les informés, eh bien, c'est pratiquement terminé pour ce soir. On va quand même faire un petit tour des unes de demain. Yannick Halimi, ça sera quoi la une du Parisien?
François Fillon est-il encore éligible?
Voilà une bonne question. Mathieu Delahousse, à la une du Nouvel Obs cette semaine.
Un grand dossier spécial à la une de l'Obs, enquête sur le Front National, sur tous ses aspects. Ce n'est pas un tract anti-Front National gratuit, c'est une série d'enquêtes extrêmement argumentées, extrêmement précises, notamment sur les affaires des assistants parlementaires du Front National avec des révélations.
Brigitte Boucher sur LCP Politique Matin Demain, votre invité.
Alors à 9h, il y aura Alexis Corbière, porte-parole de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez qu'il fait un meeting où il est un hologramme à Paris et à Lyon. Donc on va parler de ça avec Alexis Corbière.
Et merci encore à vous, Aliette Abiedi, secrétaire nationale Les Républicains.